Depuis le début de la semaine, eh bien, les États-Unis multiplient les camouflets diplomatiques à l'encontre de l'Union européenne. Alors, quel avenir pour les relations Union européenne-États-Unis ? On en parle avec Alberto Toscano, journaliste et spécialiste des affaires européennes. Et on parle également avec lui, bien évidemment, de la visite du président israélien Yitzhak Herzog. Voici donc Alberto Toscano, il est au micro de Lucie Gilson.
Bonjour Alberto Toscano.
Bonjour.
Vous êtes journaliste et spécialiste des affaires européennes. Alors, en ce début de semaine, beaucoup de mouvements diplomatiques au niveau européen et notamment sur le dossier ukrainien. On savait notamment que Donald Trump n'était pas le meilleur ami de l'Union européenne, qu'il a maintes fois accusé d'abuser de ses largesses, si je puis dire, dans l'alliance transatlantique. Est-ce qu'on est en train d'assister à un véritable tournant dans les relations transatlantiques aujourd'hui ?
Je dirais oui, sans doute. Encore faut-il dire et rajouter que le tournant ne commence pas d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on est à l'évidence de ce tournant, mais le tournant a commencé il y a des années, voire des décennies, avec l'attention croissante des États-Unis pour l'échiquier du Pacifique, Asie-Pacifique, et la perte d'importance, tout d'abord relative aujourd'hui, je répète, évidente, de l'échiquier européen du point de vue des intérêts de la Maison Blanche, indépendamment du nom du locataire. Évidemment, Donald Trump, qui parle d'une façon tellement explicite qu'il dépasse largement la frontière de la brutalité, et parfois du bon sens, et a aujourd'hui offensé l'Europe. Parce que le discours du vice-président Vance à Munich a été une véritable gifle à l'Union européenne et même à la sensibilité de tous les Européens. Une fois qu'on a dit ça, évidemment, il faut regarder vers l'avenir. L'avenir passe aujourd'hui par les contacts en Arabie Saoudite entre Américains et Russes. L'avenir passe par la responsabilisation des Européennes par rapport à leur propre sécurité. Et l'avenir passe par la capacité de l'Union européenne de s'intégrer, de se rassembler et de faire passer en deuxième plan les intérêts des pays membres par rapport aux intérêts collectifs. On n'est pas là. On voit encore aujourd'hui les intérêts particuliers, malgré la gravité du contexte, on voit les intérêts particuliers, et souvent il s'agit d'intérêts français, prévaloir sur les intérêts collectifs, parce que l'attitude du président Macron en convoquant cette réunion sommet à l'Élysée sur la sécurité d'une façon immédiate et irrituelle, sans tenir compte en réalité des procédures normales de l'Union européenne, qui a une présidence tournante, un président du Conseil des ministres, qui a toute une série d'habitudes et entre guillemets de liturgie. L'attitude du président Macron n'a pas en réalité rendu, à mon sens, un véritable service à l'Europe, parce que cette réunion à l'Élysée n'a pas été bien préparée et elle a mis en évidence plus la division que l'esprit de cohésion de l'Union européenne.
Bah, ce matin, Ursula von der Leyen s'est prononcée de nouveau pour une coopération avec les États-Unis pour une paix juste et durable sur le dossier ukrainien qu'on comprend, qui est discuté aujourd'hui à Riyad dans ce sommet entre Donald Trump et les dirigeants et les diplomates russes. Est-ce que ça révèle une vraie inquiétude de la part des Européens d'être écartés du jeu politique sur ce dossier ? Les États-Unis peuvent vraiment contourner les Européens ?
Votre question a deux aspects. Le premier aspect regarde la question ukrainienne et la possibilité d'arriver d'une façon ou d'une autre à un cessez-le-feu et peut-être à une paix durable, comme vous dites. L'autre question, c'est les relations transatlantiques à partir de la question ukrainienne. Sur la question du cessez-le-feu, je crois que dans les conditions actuelles, il est mieux, mais c'est une opinion personnelle, de négocier, de débattre, de discuter en ayant obtenu au moins un cessez-le-feu, de discuter quand le canon se tait plutôt qu'au milieu d'une guerre qui ne connaît pas de limites sur le terrain de la brutalité et du manque de respect du droit de la guerre et du droit et des droits et souvent des droits de l'homme, comme l'attitude russe a mis en évidence à plusieurs reprises. À mon sens, le cessez-le-feu est une condition nécessaire pour arriver à une discussion plus radicale. Cette attitude n'est pas partagée par toute une série de responsables européens. Cette attitude divise l'Europe. Parce que certains pays, comme la France et la Grande-Bretagne, considèrent qu'il faut la condition pour arriver à la paix est qu'il s'agisse d'une paix juste, d'une paix réelle, d'une paix définitive, d'une paix solide. C'est deux opinions différentes. Et donc, à partir de ce...
Donc juste pour préciser, une paix juste serait donc sans concession ukrainienne territoriale, on est d'accord ?
Et là, il faut discuter sur à quel territoire on fait référence. Mmh. Si on parle de la Crimée, il est vraiment difficile aujourd'hui d'imaginer une paix qui ne voit pas le maintien de la Crimée dans le contexte russe. Si on parle du Donbass, d'autres parties de l'Ukraine qui ont été conquises par les Russes depuis 3 ans, alors on peut discuter probablement. Mais ça c'est le discours sur la paix juste et définitive. Et la réalité d'aujourd'hui est que la guerre est en cours et que cette guerre en cours peut tourner dans un sens comme dans l'autre. Que les Russes peuvent obtenir d'autres conquêtes territoriales, que l'Ukraine est fatiguée et que pour garder les positions actuelles, même les positions actuelles de l'Ukraine dans un contexte de guerre, alors il se peut que d'autres pays doivent aider de façon encore plus concrète l'Ukraine en envoyant par exemple des troupes comme le président Macron a proposé il y a un an. Et comme certains proposent encore aujourd'hui, des troupes disponibles à combattre à côté des Ukrainiens aujourd'hui en Ukraine. Qui et quelle opinion publique européenne est aujourd'hui disponible à ça? Parce qu'une chose est dire les choses, et une chose est les faire. Hein? Dans les débats actuels, à mon sens, il y a une composante légèreté sur un problème qui est terriblement lourd. Parce que proposer aujourd'hui des troupes françaises, italiennes, allemandes, mais les Allemands et les Italiens ont tout de suite dit non, ou britanniques, qui aillent à combattre, je ne dis pas à diviser les deux parties, mais à combattre en Ukraine, parce que continuer la guerre signifie combattre. Il faut être cohérent, aller jusqu'au bout du raisonnement, si on parle sérieusement. Alors, à mon sens, l'hypothèse que des pays européens envoient aujourd'hui des troupes à combattre en Ukraine est une hypothèse irréaliste. Alors, il faut sortir de cette guerre. Et le chemin pour sortir de cette guerre n'est certainement pas le plus beau, n'est certainement pas le plus juste, mais il passe probablement par un cessez-le-feu.
Alors, je voudrais parler d'un autre sujet. Alberto Toscano, le président israélien, est cette semaine en tournée en Europe à l'occasion du 80e anniversaire de la 80e anniversaire de la Shoah. Il se rendra notamment en Italie. Alors, quels sont ses objectifs et à quoi s'attendre pour cette rencontre ?
L'Italie est l'un des pays européens et sans doute aujourd'hui plus proche de l'attitude israélienne et des intérêts de la politique intérieure et extérieure de l'État d'Israël. Dont le voyage du président israélien à Rome est sans doute un moment important qui ne fait que confirmer l'évolution très favorable que la relation italo-israélienne a eue depuis désormais quelques années et surtout dans les tout derniers mois.
Alors, il va également parler, il me semble, des otages pour sensibiliser, j'imagine, la population. Il va parler d'un certain nombre de dossiers également.
L'opinion publique italienne est tout à fait sensible et sensibilisée à la question des otages. Après le 7 octobre, le gouvernement italien, mais aussi au moins une partie de l'opposition, a solidarisé de façon claire avec Israël sur la question des otages. Encore faut-il prendre en compte les autres sujets aujourd'hui chauds dans la actuelle situation au Moyen-Orient, dont la question de l'avenir de Gaza. Je crois que le vrai sujet aujourd'hui de la politique extérieure israélienne vis-à-vis du dialogue avec l'Europe et les États-Unis est l'avenir de Gaza. Parce que Israël est, à mon sens, est justement persuadé que il n'y aura pas de sécurité pour Gaza et pour Israël, donc si Hamas sera à nouveau patron de la situation de Gaza. Si Gaza sera un régime autocratique et totalitaire dominé par une organisation terroriste comme le Hamas.
Eh bien, Alberto Toscano, nous continuerons de suivre ce dossier avec vous. Merci beaucoup pour
merci
votre éclairage.
Merci à vous.
Je rappelle que vous êtes journaliste, spécialiste des affaires européennes, un grand habitué de notre antenne. Merci beaucoup, à bientôt.
Au revoir.